out, y'all. Nasty knives in your area, about to cause mass hysteria. Before a blunt, I take out my fronts, then I start the front. Matter of fact, I'll be on a manhunt. You couldn't catch me in the streets without a ton of reefer. That's like Malcolm X catching a jungle fever. King poetic, too much flavor, I'm major. Atlanta ain't braver, I pull a number like a pager. Cause I'm an ace when I face the base. 40 side is the place that is giving me grace. Now wait, another dose say you might be dead. And I'm a Nike head, I wear chains that excite the feds. It ain't a damn thing gonna change. I'ma perform a strange show to Mike. Woman was born to gain. Nas, why did you do it? You know you got the mad fat fluid when you rhyme. It's halftime. It's like that. You know it's like that. I got it him, now you never get the mic back. When I attack, there ain't an army that can strike back. So I react never calmly on a hype track. I set it off with my own rhyme. Cause I'm as ill as a convict who kills for phone time. I'm max like a sex, a flex like sex in your stereo sets. Nas a catch wreck, I used to hustle. Now all I do is relax and strive. When I was young, I was a fan of the Jackson 5. I drop jewels, wear jewels, hope to never run it. With more kicks than a baby in a mother's stomach. Nasty Nas has to rise, cause I'm wise. This is exercise till the microphone dies. Back in 83, I was an MC sparking. But I was too scared to grab the mics in the parks and kick my little raps, cause I thought niggas wouldn't understand. And now in every jam, I'm a fucking man. I rap in front of more niggas than in the slave ship. I used to watch chips, now I look. Block clips, I got to have it. I miss Mr. Magic, versatile. My style switches like a faggot, but not bisexual. I'm an intellectual, a rap, I'm a professional. And that's no question, yo. These are the lyrics of the man. You can't near it understand, cause in the streets I'm well known like the number man. Am I in place with the bass and format? Explore rap, and tell me Nas ain't all that. And next time I rhyme, I'll be foul. Whenever I freestyle, I see trial. Niggas say I'm wow. I hate a rhyme, bite his rhyme. Stay tuned, I assume the real rap comes at halftime.
Right, yeah.
I'm on a song every afternoon. I kick half the tune, and in the darkness, I'm heartless like when the narcs hit word. The Marcus Garvey, a heartless sparked it. Cause when I blast the herb, that's my word. I be slaying them fast, doing this, that, and the third. But chill, Pastor Andre, and let's lay. I bag bitches up at John Jay and hit a matinee, putting hits on 5-0. Cause when it's my time to go, I wait for God with the fo-fo, and fighters can't come near. And you'll go to hell to the fell cop who shot Garcia. I won't plan. Seeds, don't need an extra mouth, I can't feed. That's extra Philly change, more cash for damp weed. This goes out to Manhattan, the Allen of Staten. Brooklyn and Queens is living fat in the boogie down. Enough props, enough clout. Ill will, rest in peace, yo, I'm out. It's still halftime. To the Queensbridge crew, it was halftime.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. C'est jeudi noir ce soir qui commence dans des conditions un petit peu particulières parce que José nous a lâché, il croyait qu'on était mercredi. Voilà, lâcheur José, je sais que tu nous écoutes. Donc voilà. En plus, c'est d'autant plus ironique que l'émission de ce soir a été préparée à l'instigation de José. Parce que voilà, dans les différents endroits malfamés qu'il fréquente, autre squat, un truc punkoïde, de musique française actuelle, ben, des copains qui écoutent Radio Libertaire aussi lui ont demandé de présenter un petit peu, si on pouvait pas présenter un petit peu des bouquins et des petits bouquins qui qui donnerait les bases, si vous voulez, de la pensée, de la pratique anarchiste. Et donc, on s'est dit, très bonne idée, voilà, on va revenir aux fondamentaux. Merci José, bravo, on y va. Voilà, donc il devait présenter des choses, il les présentera pas, c'est bien fait pour lui. Jean-Mathias et moi, on rigole et on se moque un petit peu amèrement de lui. Voilà, donc... c'est aussi pour ça que vous avez pu entendre du rap. Parce que c'était Jean-Mathias qui était aux platines et que ça faisait 2 ans qu'il nous tannait pour passer plus de rap. Mais bon, jusqu'ici on n'avait pas cédé et voilà, maintenant il a profité de la politique de la chaise vide pour imposer ses vues esthétiques.
Voilà, j'embrasse très fort José.
Donc voilà, donc ce soir on va vous présenter 2-3 classiques, un peu plus même. Donc, alors... Il y a tout, on pourrait déjà qu'on va peut-être commencer par les grands classiques. Alors, le truc, c'est que, il y a trois, souvent on distingue l'anarchisme, on distingue trois parties dans l'anarchisme. Bon, l'anarcho-syndicalisme, l'anarcho-communisme et l'anarcho-individualisme. Ça, c'est une distinction possible, on peut en faire d'autres. Il y a aussi, il faut prendre aussi en compte des auteurs qui ne se rangent pas forcément sous ces catégories, même s'ils ont posé les bases, et qui sont les fondamentaux, en quelque sorte, de la pensée anarchiste. J'ai nommé Proudhon, Bakounine et Kropotkin. Donc, trois penseurs, trois philosophes, ou trois révolutionnaires du 19e siècle. Alors, ils ont des œuvres qui sont souvent, de manière assez énorme, qui sont pas forcément faciles d'accès parce que c'est édité un petit peu parfois. Il faut trouver l'éditeur. Bakounine, par exemple, n'avait pas toujours le temps de terminer ses textes, donc il y a beaucoup de fragments. Il était trop occupé entre la prison et l'organisation de la prochaine insurrection et l'insurrection elle-même. Donc c'était pas évident, forcément pour lui. Kropotkin a une œuvre plus suivie, Proudhon aussi. Malgré tout, bon, c'est pas des auteurs qui sont édités de façon massive. Voilà. Et puis en plus, à chaque fois, leurs œuvres tiennent sur des étagères de bibliothèque. Donc c'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait vous recommander peut-être, si vous voulez aller voir par là, des anthologies de textes, déjà. Pour rentrer un petit peu dedans. Alors j'en ai sélectionné deux. Une qui est sortie assez récemment, il y a 6-7 ans, ce qui fait, c'est pas si vieux que ça, et qui était, c'est des textes, alors c'est intitulé La Révolution Libertaire, c'est des textes choisis et présentés donc, par Philippe et Michael Parer, avec lesquels je faisais une émission il y a quelques années sur ces ondes aussi, et c'est un livre qui est très très bien fait. Il présente à chaque fois des textes de, justement, de Proudhon, de Bakounine et de Kropotkin, dans un ordre à la fois thématique et un peu chronologique, c'est-à-dire qu'on voit aussi l'évolution, les reprises, les points communs et les petites différences qu'il peut y avoir entre ces trois auteurs. Et donc c'est très très bien fait. Alors ça fait quoi? Ça fait 240 pages. Vous pouvez le trouver maintenant aux éditions de l'Épervier. Ça a été réédité depuis. Et voilà, vous avez donc une introduction qui s'intitule Les deux communismes. Parce que par exemple, Bakounine se dit pas tellement anarchiste, il se dit souvent socialiste. Il se voyait comme un concurrent de Marx, mais un peu sur la même ligne politique, avec des grosses différences qui ont mené à l'explosion de la Première Internationale, mais malgré tout, il se disait socialiste, c'était pas le seul. Donc voilà, et alors vous avez dans cet ouvrage qui est très bien fait des biographies. C'est-à-dire que voilà, vous avez la biographie de Proudhon, de Bakounine, de Kropotkin. Vous avez un premier choix de texte qui est justement où on voit que ces trois auteurs s'opposent à toute religion, finalement. Mais à toute religion, ça va très très loin. C'est-à-dire que c'est pas simplement les religions instituées telles qu'on peut les connaître, comme le christianisme, l'islam ou le judaïsme ou le bouddhisme, ou que sais-je encore. C'est aussi finalement tout ce qui peut être de l'ordre de la pensée religieuse, y compris dans des choses qui ne sont pas a priori religieuses. Donc ça va être une attaque, par exemple, de la philosophie idéaliste. Ce genre de choses. C'est tout, si vous voulez, c'est une critique de tous les absolus. dans la pensée, quelque chose de cet ordre. Donc, enfin non, pas tous peut-être. Donc critique de l'idée de Dieu, refus de la philosophie idéaliste, comme je vous disais, modèle de la religion à combattre, le christianisme, sur l'influence corruptrice de la religion, la nature asservissante de la religion, choisir entre l'Église et la Révolution, toutes ces choses qui sont bon, des grands classiques, et qui montrent, à mon avis aussi, c'est important pour moi en tout cas, l'héritage des Lumières dans l'anarchisme, qui est très important, parce que ce sont des thèmes qu'on trouve déjà au 18e, et qui sont développés à nouveau frais au 19e. Tu voulais dire quelque chose, Jean-Mathias ?
J'abonde complètement, en disant qu'effectivement cet héritage de la philosophie des Lumières dans l'anarchisme, c'est un point qui est important, et là-dessus on est assez d'accord, hein, tous les deux. C'est-à-dire que souvent, il y a, comment dire, ça, c'est en allant voir effectivement les textes des classiques et des pères fondateurs, entre guillemets, que c'est assez clair, parce qu'il me semble qu'il y a, comment dire, une espèce de voile et parfois un certain nombre de malentendus sur l'anarchisme qui insiste beaucoup sur la dimension de romantisme révolutionnaire qu'il peut y avoir dans le courant anarchiste. Alors pour différentes raisons, c'est pas complètement faux historiquement, il y a effectivement aussi la figure de l'anarchisme individualiste de la fin du 19e siècle, les attentats terroristes, les nihilistes russes aussi, qui font partie de l'histoire du mouvement anarchiste, mais qui ont peut-être tordu ou accentué de manière un peu excessive le sens c'est le contenu du projet anarchiste en ce qui concerne les questions politiques. Et la filiation avec la philosophie des Lumières, c'est-à-dire avec une conception de progressiste, hein, de la société, avec l'importance mise sur la connaissance scientifique, sur la rationalité, l'usage de la raison et l'usage collectif de la raison de manière à régler les questions sociales et à organiser la société, c'est un point qui est tout à fait fondamental, hein, dans l'histoire de l'anarchisme, et qui est peut-être un peu occulté
peut-être, ou trop souvent par l'influence de Nietzsche,
par les vagues que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et puis je pense aussi qu'il y a eu aussi une tradition de ce type là après mai 68, hein, dans l'histoire du mouvement anarchiste, notamment en France, c'est-à-dire que sous l'influence par exemple des penseurs situationnistes ou ce genre d'approche qui a été importante aussi dans l'histoire du mouvement anarchiste en France, on a insisté beaucoup sur le caractère de rupture en quelque sorte de la pensée anarchiste, et du coup sur sa dimension peut-être un peu affective, sentimentale, explosive, je dirais, hein, pour faire vite.
La chimie est votre ami,
ce qui n'est pas faux, illégitime, mais qui laisse un petit peu de côté peut-être le caractère classique finalement de l'anarchisme comme courant de pensée politique fondamentalement moderne, hein. C'est quelque chose qui est donc je pense que t'as raison d'insister là-dessus, et ça on s'en rend compte effectivement en allant regarder du côté des grands anciens, bon peut-être Kropotkine notamment, ou des gens comme ça, hein,
chez Bakounine, c'est très net,
chez Bakounine également.
Alors ensuite dans cet ouvrage là la révolution libertaire, un recueil de textes choisis et présentés par Philippe et Michael Parer, vous avez une deuxième partie qui est consacrée à la lutte contre le principe d'autorité, et donc c'est l'anti-autoritarisme et l'anti-étatisme. Donc là on voit comment finalement les anarchistes, ça c'est très très net dans Dieu et l'État de Bakounine, un petit ouvrage qui est assez lisible aussi, finalement là, une grosse différence avec le marxisme, c'est que chez les marxistes l'Église est vue comme une espèce d'effet secondaire un peu néfaste mais très révélateur du capitalisme, ce qui fait que si on veut se débarrasser des curés, pour simplifier, il suffit de se débarrasser des patrons. Et chez les anarches, vous n'avez pas du tout cette idée-là, vous avez plutôt l'idée qu'il faut se débarrasser des deux, et que c'est pas en se débarrassant
de l'État et de l'Église.
De l'État et de l'Église, sachant que l'État est une pièce essentielle pour les anarchistes dans le capitalisme, ce qui fait aussi une grosse différence avec le marxisme, puisqu'il n'y aurait pas de patron sans État. Et donc, et c'est pour ça qu'ils vont toujours lier domination et exploitation, et la lutte contre les deux, la domination des esprits et l'exploitation des corps, pour aller vite. Exploitation économique. Donc voilà, et puis vous avez donc une troisième partie critique, les méfaits du capitalisme, et enfin une quatrième partie sur le programme libertaire. Donc c'est des textes qui sont souvent assez courts, qui sont plutôt bien choisis, qui montrent aussi la cohérence du projet, je pense, du projet intellectuel et politique, on le voit aussi. Et donc moi je vous le recommande chaudement, La Révolution libertaire, donc texte choisi présenté par Philippe et Michael Parer aux éditions de l'Épervier. Alors je présente peut-être.
Tu continues, vas-y, sur les classiques.
Et puis, donc les classiques, un deuxième. Alors c'est un peu plus gros. Je vais moins parler peut-être un petit peu, enfin on va voir. C'est un bouquin de Daniel Guérin, et c'est aussi, c'est pareil, c'est... Alors Daniel Guérin, c'est un anarcho-communiste, je crois, qui a écrit tout un tas de livres assez intéressants. Il a visité l'Allemagne dans les années 30, il en est revenu avec une analyse du fascisme. Bon, ça c'est un peu dur à trouver. C'est aux éditions Sociales, je crois. C'est un vieux bouquin des années 60, on le trouve dans les bouquineries.
Si je me trompe
il
pas,
a été réédité.
Oui, il me semble qu'il a été réédité chez les Nuits Rouges.
Ah, peut-être. Moi, je l'avais trouvé dans une vieille édition. Donc, voilà. Alors, c'est une autre anthologie, et donc vous allez trouver aussi des textes. Mais alors, si je l'ai prise en plus de celle des Parères, c'est parce que il s'en tient pas qu'aux grands anciens. Enfin, il s'en tient pas aux grands classiques. Il va élargir un petit peu. Alors, donc, c'est plus gros. Parce qu'il va parler aussi donc de Malatesta, un anarchiste italien, qui a d'abord été un partisan de l'insurrection, qui ensuite s'est plutôt investi dans les syndicats. Ensuite, vous avez aussi différentes choses, Émile Henry, mais il va s'intéresser aussi aux collectivités espagnoles, qui sont très très importantes dans l'histoire de l'anarchisme. À Voline. Donc Voline, c'était un partisan de Macno, un Ukrainien, qui a écrit une histoire de la Révolution russe en trois volumes et qui a participé
avant d'être zigouillé.
Voline, je sais pas s'il a été zigouillé.
Ah, si.
Il s'est fait zigouiller par qui?
Par les bolcheviks.
Par les bolcheviks, non, mais lesquels en 22 plus tard.
C'est plutôt 22. Hein, il est éliminé. Enfin, j'ai peur de dire des bêtises parce que c'est
pas. Il a écrit quand même un gros truc sur la Révolution russe qui semble vraiment postérieur. Mais bon, vous avez donc Voline, des Macno, des textes aussi issus de Kronstadt, les anarchistes russes en prison, l'anarchisme dans la guerre d'Espagne. Donc tout ça, c'est des programmes. Alors c'est un peu plus spécialisé quand même.
Moi, je trouve que c'est une excellente introduction. Historiquement, c'est extrêmement complet. La particularité de Guérin, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui se réclame du communisme libertaire. Et donc, il essaye. Alors bon, c'est quelqu'un qui est très marqué par par 36 et par 68 en France, hein. Et donc sa particularité, c'est d'essayer de penser une synthèse entre l'histoire de l'anarchisme politique et le marxisme. Donc lui, il essaye de trouver cette synthèse-là, notamment en insistant sur les textes politiques de Marx, donc les premiers textes de Marx. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, très cohérent, je trouve, moi, du point de vue théorique, et qui en même temps, à mon avis, peut-être aussi un petit peu daté. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on c'est une lecture et c'est un type de réflexion anarchiste qui est très marqué années 70. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, au contraire, il y a des tas de choses, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé aussi sur la Yougoslavie de Tito, sur la révolution hongroise, et qui connaît aussi très bien toute la tradition conseilliste, c'est-à-dire tout ce qui relève de la gauche communiste révolutionnaire non bolchévique. Alors donc là, on est sur un peu des questions un peu pointues, mais c'est quelqu'un qui a essayé en tout cas de naviguer entre ces deux traditions-là, et ça donne quelque chose à la fois de très pointu et de très intéressant, hein, sur le plan politique. Moi, je trouve cette anthologie, c'est une mine, hein.
Le texte, c'est très riche. Alors ça, vous pourrez le trouver. Ces éditions, pour une fois, des éditions qui sont pas trop fauchées. Ces éditions donc de la Découverte. Et donc voilà. Donc là, on vous a présenté deux recueils de textes. Un qui prend les trois grands classiques. Hein, Proudhon, Bakounine, Kropotkin. La Révolution libertaire. Texte choisi et présenté par Philippe et Michael Parère aux éditions de l'Épervier. Et le deuxième, c'est donc Daniel Guérin, Ni Dieu ni Maître. C'est Anthologie de l'anarchisme en deux tomes. Et c'est aux éditions de La Découverte. On va passer un peu de musique et puis on vous retrouve après.
Beastie Boy! in the back cause he's skeezing with a hoe. We gotta say it, get it drunk with money in his bag. With dice in the front and Brooklyn's in the back. Why don't you bust my rhyme? No, son, go! No! Sleep to Brooklyn! No! Sleep to Brooklyn!
Ain't seen the light since the start of this band's MCA. Get on the mic, my man.
I'm running from Brooklyn, the USA. They call me Adam Young, but I'm an MCA. Like a lemon to a lime, a lime to a lemon. A super deaf ale with all the fire women.
Minerals, arenas, and TV shows. Autograph pictures and classy hoes.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. C'est Jeudi Noir qui se poursuit, donc sans José, on le signale, on le dénonce. Voilà, il va devoir faire son autocritique et se flageller à coups de ceinture en flanelle la prochaine fois qu'il viendra. Ça lui fera les pieds, ou le dos, enfin c'est selon. Et donc on poursuit notre présentation de quelques ouvrages de présentation de l'anarchisme, donc pour rentrer un petit peu dans ce mouvement. On a pas. Tu veux causer des tiens?
Oh bah je peux, on peut y aller. Ouais, moi j'ai deux. J'avais choisi de parler de deux petits textes là qui sont courts. Alors ça c'est bien.
Sur un avantage. Oui.
Et alors qui marquent, qui sont plus récents que les ouvrages que tu as présentés là tout à l'heure et qui représentent assez bien, je trouve, ce qu'on pourrait appeler une forme de néo-anarchisme, c'est-à-dire le renouveau de la réflexion anarchiste, c'est-à-dire aussi l'apparition de nouvelles thématiques, de nouveaux champs d'action ou de pratiques anarchistes depuis, mettons, une quinzaine d'années, on va dire comme ça. Hein. Alors ces deux livres, je donne les titres tout de suite. Donc le premier, alors il est déjà un petit peu ancien, il a une dizaine d'années. C'est un livre du Canadien Normand Baillargeon qui s'appelle L'ordre moins le pouvoir, histoire et actualité de l'anarchisme. Donc ça fait une bonne transition avec ce que tu disais précédemment. Et le deuxième est plus récent, là, il est de cette année, là. C'est un petit livre d'un Américain qui s'appelle James C. Scott et qui s'appelle Petit éloge de l'anarchisme. Alors on trouve ça, c'est chez Lux, donc les éditeurs Lux, dans la collection Instinct de Liberté. Et c'est une présentation, là aussi, personnelle de l'auteur. de la pensée et des pratiques anarchistes. Mmh. Alors, comment ça se présente, ces deux petits livres, dont vraiment je conseille pour les gens qui veulent rentrer dans cette tradition-là et dans la compréhension un peu théorique de l'anarchisme. Deux petits livres très courts, très pédagogiques, très didactiques, donc c'est vraiment les bonnes entrées, c'est un peu l'anarchisme pour les nuls. Hein. On va dire ça comme ça, sachant que c'est tout sauf nul, évidemment. Mmh. Alors, le premier, c'est le texte de Baillargeon, donc il y a déjà une dizaine d'années. Alors Baillargeon, c'est quelqu'un qui est connu, hein, y compris des anarchistes français, très proche de quelqu'un comme Chomsky. C'est un professeur de sciences de l'éducation qui travaille à Montréal, si je me trompe pas.
Oui, en tout cas, oui. Université du Québec.
Du Québec.
À Montréal. Alors, enfin, c'était il y a une dizaine d'années, peut-être que ça a changé maintenant.
Voilà. Alors, ce petit texte, L'ordre moins le pouvoir, c'est clairement conçu comme une introduction. Avec au fond trois grandes parties. Il y a une première partie qui reprend un petit peu les textes fondateurs autour des grandes figures de l'anarchisme. William Godwin, sur lesquels on avait déjà parlé dans cette émission, mais qu'on oublie souvent dans les historiographies.
Oui, mais parce qu'il n'a pas été lu par les anarchistes du 19e. En fait, voilà. Il a été complètement enterré, alors qu'il pose les bases théoriques de tout le reste. Mais ils vont le retrouver. De façon détournée plus tard, c'est assez marrant.
Donc alors voilà, il est question de Godwin, mais aussi de Stirner. Alors Stirner, bon, ça c'est un peu le maudit, hein, celui dont on ne sait pas trop quoi faire, y compris chez les anarchistes, et l'individualisme
radical,
forcené, total, complet. Voilà, donc bon, mais
tout ce que la collectivité nous demande, si vous voulez, demande à l'individu, relève du sacrifice, et donc par conséquent condamnable.
Voilà.
Ce qui fait que la société n'a aucun droit, simplement. Aucun droit sur l'individu. Selon Stirner, qui n'était investi dans aucun mouvement politique, à ma connaissance. Enfin, il était dans ce qu'on appelait peut-être les jeunes hegeliens de gauche. Ouais. Mais,
ce qui n'est pas un mouvement politique.
Ce qui n'est pas. Dès qu'il y a hegelien dedans, de toute façon, c'est pas politique.
Voilà.
Mais.
Donc, alors voilà.
On ne sait pas quoi en faire de Stirner, ça,
voilà,
c'est sûr.
Voilà. Proudhon, bien sûr. Bakounine, dont on a parlé. Kropotkine, évidemment, qui est alors une des figures un peu assez fascinantes de l'histoire de la pensée anarchiste. Un prince de sang russe, Bakounine aussi, bon. Et puis il est question quelques continuateurs, ça termine comme ça, et il est question de Chomsky. Ensuite il y a un certain nombre de, comment dire, il y a un retour sur un certain nombre d'événements fondateurs de la mémoire anarchiste, je dirais, hein, et donc il est question, voilà, de la Première Internationale et de la Commune de Paris, le massacre de Haymarket aux États-Unis, donc qui est notamment à l'origine de la fête des travailleurs, hein, du 1er mai, la Révolution russe.
Pour ceux qui ne savent pas, Haymarket est une bombe qui est lancée, soi-disant, par des anarchistes
lors d'une grève
aux États-Unis. Elle va tuer combien de personnes? Je ne sais plus. Je ne suis même pas sûr que le... Enfin bon, ça fait des dégâts. Hein. Mmh. Ça choque beaucoup. Et on va choper 5 anarchistes, grévistes, ouvriers, et on va les pendre.
Voilà.
Et à partir de là, ben, c'est, je crois que c'était le Haymarket, c'était le premier. C'était un 1er mai. Et à partir de là, ça va être...
Bah, c'est ce qui a contribué à faire du travail.
Du 1er mai,
la fête des travailleurs, pour être pas exact, hein,
oui.
Disons-le.
Oui, oui. Pas du travail, oui.
Il y a une nuance.
Oui.
Fête des travailleurs, effectivement, dans sa dimension internationale. Il y a un développement sur la Révolution russe, parce qu'il y a un rôle non négligeable des anarchistes dans la Révolution russe de 17, de février et d'octobre.
Et en Ukraine.
Et en Ukraine, évidemment, avec la figure de Makhno. Un point sur la guerre d'Espagne, évidemment, et sur la révolution espagnole, notamment en Catalogne, mais aussi en Aragon, avec tout le développement des collectivités paysannes autogérées, et puis évidemment le rôle de la CNT espagnole et de la FAI, la Fédération anarchiste ibérique.
Donc, un rôle essentiel, puisque c'est les anarchistes qui ont, dans beaucoup d'endroits, empêché le coup d'État franquiste. Et parce qu'ils sont organisés, qu'ils sont extrêmement nombreux, il y a 1 million de syndiqués à la CNT en 36. Donc c'est le plus gros syndicat espagnol à ce moment-là. Et ils ont des principes hérités directement de Bakounine, par l'intermédiaire. Enfin, non, pas directement. Il y a James Guillaume qui est passé en tant que, qui a servi de. Un autre jurassien qui a servi de relais. Mais en même temps qu'il sauve la République du coup d'État franquiste, une révolution va s'entamer je sais pas si on peut dire spontanément, c'est compliqué parce que c'est des gens qui étaient très très conscients politiquement, mais donc à base de réappropriation des usines, pour ne pas dire expropriation.
Si, il faut le dire.
Oui, il faut le dire. Oui, non, mais moi je dis réappropriation au sens de. Tout est à nous, quoi. Mmh. Tous ceux qu'ils ont, ils ont volé. Donc. Donc voilà, et ensuite, bah, bon, après les opinions divergent. La lecture anarchiste de la révolution, enfin de, comment dire, de l'échec de la révolution espagnole, c'est que bah, Staline était contre parce qu'il voulait se mettre la France et l'Angleterre dans la poche, et que donc les communistes espagnols ont été dûment chapitrés et infiltrés par le Comintern pour tuer, pour, comment dire, pour zigouiller tout ce qui pouvait ressembler à des anarchistes ou à des trotskistes et faire échouer la révolution.
Voilà,
y donc... compris si ça impliquait la victoire de Franco, ça ils s'en foutaient.
Absolument. Dernier point sur cette mémoire de l'anarchisme politique, bah, la mai 68, qui est voilà, une borne dans la mémoire du mouvement anarchiste, évidemment, un peu très importante. Et puis, il y a donc une troisième partie dans laquelle il essaye en quelque sorte de présenter les différents thèmes sur lesquels les anarchistes ont aujourd'hui des choses à dire, à revendiquer, et des pratiques à proposer et à mettre en œuvre, tout simplement. Donc, il est question... les questions d'économie, d'anarcho-syndicalisme aussi, qui est tout sauf un mouvement dépassé, d'après Baillargeon, mais aussi des questions relatives à l'écologie, à l'éducation, aux médias et à la critique des médias, à l'anarcho-féminisme. Et également, puisque c'est aussi, alors ça, un aspect sur lequel les anars doivent faire le ménage, de certains courants qui se développent notamment aux États-Unis, mais pas seulement, et qui se réclament de l'anarchisme, mais d'une forme d'anarchisme un peu étrange, puisqu'il s'agit d'anarcho-capitalisme, où il s'agit au fond de développer une position ultra-libérale en refusant à l'État toute forme d'intervention sur l'économie capitaliste, ce qui évidemment pose un certain nombre de problèmes et de contradictions en réalité par rapport au projet anarchiste qui est celui d'une société sans État, mais aussi sans exploitation, et peut-être d'abord sans exploitation, défendre le capitalisme au nom de principes anarchistes, c'est mission impossible, mais c'est quelque chose qui n'est pas que anecdotique et qui collecte notamment des fonds puissants auprès de certaines fondations et de certains industriels américains, qui développent voilà, une presse, bah, notamment...
Wikipédia. Oui. Wikipédia, ça a été fondé par un anarcho-syndicaliste, par un anarcho-capitaliste, libertarien.
Mais c'est pas forcément ce qui se fait de pire. Ce qu'on appelle le mouvement libertarien aux États-Unis.
Oui, et... ce qu'il faut voir, c'est que c'est des gens qui, malgré tout, sont peu nombreux, sont assez extrémistes dans leur position et sont... comment dire, sont pas sans moyens.
Sont pas sans moyens, exactement. Hein. Ça faut l'avoir en tête. Donc, il reprend un peu ce paysage-là. Très intéressant, parce qu'effectivement, c'est le monde et les questions sociales auxquelles on est confronté aujourd'hui. Donc, question d'écologie, il est clair que chez Bakounine ou chez Proudhon, on n'a pas de réflexion là-dessus.
Kropotkine, peut-être un peu.
Oui, alors Kropotkine, c'est mais disons que la crise environnementale ou la crise écologique telle qu'on la connaît aujourd'hui, ils ne pouvaient évidemment pas la penser avec les outils qui sont les leurs à l'époque. La critique des médias, c'est évidemment un gros morceau, ça. Et d'où l'importance de quelqu'un comme Chomsky dans cette tradition-là. Et l'anarcho-féminisme, évidemment, donc aussi hérité des années 70 et en plein développement aujourd'hui. Donc c'est un petit bouquin, voilà, L'ordre moins le pouvoir de Baillargeon, qui vous donne un panorama aussi bien historique que contemporain des différents champs dans lesquels se développe l'anarchie aujourd'hui et d'où elle vient. Donc très bonne présentation.
Ça fait 150 pages, voilà. C'est aux éditions Agone. C'est très très pédagogique et c'est vraiment une très très bonne porte d'entrée, je trouve, donc aux idées et au mouvement libertaire, parce qu'il sépare pas justement la théorie et la pratique, et puis il est branché aussi sur les problèmes contemporains.
Alors le deuxième petit livre dont je voulais vous parler, toujours on continue un peu notre petite bibliothèque anarchiste là, si je peux me permettre.
C'est un trademark.
C'est un trademark. Donc le deuxième, c'est un petit livre de James C. Scott aux éditions Lux qui s'appelle Petit éloge de l'anarchisme. Alors j'aime beaucoup. Je m'attendais pas trop à ça et en fait je suis assez séduit par la méthode. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille pas de manière théorique. C'est un livre qui est pas du tout théorique, qui travaille pratiquement uniquement que sur des exemples, qui sont pas forcément des exemples de l'histoire, tirés de l'histoire politique ou de l'histoire du mouvement ouvrier ou du mouvement anarchiste, mais qui essaye au fond de tester en quelque sorte la pertinence des idées anarchistes dans des situations contemporaines précises. Ce qui veut dire que, alors c'est en ce sens-là qu'il se rapproche plus de ce que je serais tenté d'appeler une forme de néo-anarchisme, qui insiste beaucoup notamment sur les comportements de désobéissance civile et sur le rapport à la loi. Alors il ne s'agit pas forcément de développer une grande théorie révolutionnaire pour l'abolition définitive de l'État étranglé avec les tripes du dernier curé, voilà. Mais il s'agit de remettre en perspective au fond les principes de l'anarchisme sur des questions qui sont voilà, au fond au cœur de tous les mouvements sociaux modernes, au moins depuis les années 70. Hein. Alors il s'intéresse à des tas de choses tout à fait passionnantes. Par exemple, donc notamment sur le rôle du charisme dans les mouvements sociaux, en essayant de développer, de montrer comment le charisme est d'après lui, il prend l'exemple de Martin Luther King, donc ce qui est un peu étonnant lorsqu'on est dans une tradition anarchiste, mais son idée c'est d'essayer de montrer comment le charisme, notamment celui de Luther King comme exemple, permet de comprendre une espèce de forme de contrôle par la base. Dans les mouvements sociaux, dans la mesure où, contrairement à ce qu'on dit habituellement, il considère lui que le leader charismatique est quelqu'un qui en fait est forcément à l'écoute des attentes du mouvement social et de sa base. C'est-à-dire qu'il y a une formule que j'aime assez, il dit à un moment finalement, Luther King c'est quelqu'un qui avait finalement l'oreille absolue dans ses discours, c'est-à-dire qui était prêt à anticiper et qui essayait de sentir effectivement quelles étaient l'attente en termes de revendications et de discours du mouvement des droits civiques voilà, qu'il représentait d'une certaine manière, mais sans chercher à lui donner un programme d'en haut, ou sans chercher à lui donner des revendications extérieures. Et donc il y a des pages assez fines là-dessus, donc des choses intéressantes.
Une espèce de porte-parole.
Une espèce de porte-parole.
C'est quand même ouais, bof.
Écoute, il faut les années sont assez convaincantes, convaincantes au sens où avec cette idée que finalement
Hitler était aussi un leader charismatique. Hein.
Oui, alors ça c'est le point, c'est effectivement
enfin,
c'est comment
un point Godwin en moins de 30 secondes.
Oui, bravo, félicitations. Mais
tant pis pour moi.
Le point faible, c'est évidemment comment tu fais la différence entre un leader charismatique libertaire et un démagogue pur et simple. Ça c'est voilà. Mais bon, enfin, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est simplement pour donner une idée du type d'analyse en fait qui est proposée. Il y a aussi des tas d'autres choses. Par exemple, alors il parle de son expérience. Il a eu à travailler en Allemagne juste après la chute du mur. Il a travaillé dans ce qui était à l'époque encore une ferme collective en fait, un fonctionnement. Et ce qui l'intéresse beaucoup, c'est d'essayer de voir comment ce que les gens font en fait, hein, concrètement. C'est-à-dire la manière dont effectivement ils suivent une règle sans être en mesure de la justifier, la manière dont l'obéissance aveugle et non réfléchie peut conduire à des comportements parfaitement absurdes. Et au fond, le principe anarchiste, il le voit là en fait, sur une espèce de comment dire d'hygiène intellectuelle, morale et politique, hein, avec cette idée que finalement l'anarchisme est là comme une espèce de rappel qu'il faut s'entraîner systématiquement à réclamer finalement des justifications, hein, aux règles collectives ou aux contraintes collectives. C'est assez, assez intéressant en essayant de comprendre aussi comment on observe, sans forcément qu'il y ait de théorie et surtout qu'il y ait d'organisation constituée ou de programme précis, comment on assiste très souvent dans les mouvements sociaux, mais dans la société en général, à des espèces de formes de coordination et de coopération tacite, notamment sur ces questions de transgression de la loi, qui obligent finalement à penser l'autorité de l'État et des règles comme une espèce de négociation permanente, hein, entre une autorité de coercition qui cherche à imposer, effectivement, à organiser la société d'en haut, en quelque sorte.
Par la force, ou avec l'aide de la force.
Ou avec l'aide de la force. Mais évidemment, ce n'est pas simplement l'État qui fait ça. C'est aussi toutes les organisations politiques, les minorités agissantes autoproclamées, etc. Et il essaie de montrer comment voilà, on observe la force de l'anarchisme, pour lui, elle se joue là-dessus, sur les capacités finalement d'auto-organisation pas nécessairement conscientes, hein, que les gens vont opposer lorsqu'ils sont dans des situations de ce type-là. Alors ça peut prendre des choses voilà, très simples. Comment effectivement petit à petit on fait sauter une limitation de vitesse, hein, sur la route. Comment on a des phénomènes effectivement des phénomènes de sécurité collective se créent à l'intérieur d'un mouvement social lorsqu'il y a désobéissance à partir du moment où on atteint une certaine masse critique. Et comment effectivement la règle et l'autorité est sans cesse en fait confrontée à ce type d'auto-organisation organisation populaire
progressive,
transgressive, ouais. Oui, qui te met ça. Mmh. C'est quelqu'un qui a aussi été visiblement assez marqué par Graeber, dont on a parlé pas mal. Par rapport notamment à ce que tu disais, à la discussion qu'on avait sur le charisme là, et sur les limites que le leader charismatique rencontre auprès de son public, avec cette idée assez fine et qu'on trouve souvent chez Graeber, l'idée que finalement, au fond, le vrai dominant n'a pas besoin d'écouter ceux qu'il domine, hein. Il n'a pas besoin d'être à l'écoute, hein, parce que c'est le dominé en quelque sorte qui connaît le dominant par cœur. Oui. Et le dominant finalement ne connaît jamais celui qui domine.
Non,
parce
qu'il y a toujours la violence à sa portée et que la violence est le moyen le plus stupide et le plus efficace pour agir sur quelqu'un sans le comprendre. Voilà. C'est ce que dit Graeber assez fréquemment. Et donc, en gros, c'est l'idée que voilà, c'est le fonctionnaire, n'importe lequel, le garde-barrière, le prof, le mec du fisc, va dire si tu franchis cette ligne, je te tire dessus. D'une manière ou d'une autre. Et peu importe pourquoi tu veux franchir cette ligne, quelles sont tes raisons, qu'est-ce qui t'amène ici, je m'en fiche. Donc, effectivement, le dominant, on s'en fout. Et alors, tu dirais que le leader charismatique, lui, contrairement au dominant qui peut ne pas comprendre ceux qui sont en dessous de lui socialement, serait obligé.
C'est ce qui soutient.
C'est ce qui soutient.
C'est la ligne qu'il propose. Mais il y a plein de c'est un livre qui se développe uniquement par fragments comme ça, à chaque fois sur des exemples comme ça précis. Mais il y a aussi par exemple des choses sur la manière dont la géographie administrative, par exemple, a normalisé l'espace. Le nom des lieux, les voies de communication, en faisant sauter en quelque sorte tout le savoir vernaculaire accumulé dans les noms attribués par les habitants à tel ou tel endroit, à telle ou telle route, à tel ou tel lieu. Et donc justement, le pouvoir de l'État ou les coercitions de l'État jouent aussi sur des choses aussi concrètes et aussi précises que ça. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne, hein, l'auteur, la Scott. Et ça donne un livre qui est assez atypique, qui est assez très agréable à lire et assez riche, en fait. Alors, encore une fois, ça pose des questions, hein. Ta réaction tout à l'heure était emblématique de ça, mais je trouve que c'est un petit texte très agréable à lire et une introduction très séduisante, en tout cas sur justement la pertinence et finalement c'est une approche pas théorique, quoi, pas théorique, pas théoricienne, tout sauf politicienne aussi, de l'anarchisme, comme une espèce de principe de désobéissance qui est finalement au cœur même des comportements sociaux, que ce soit des mouvements politiques revendiqués et identifiés, ou des comportements sociaux beaucoup moins clairs. Il explique par exemple qu'il y a toute une réflexion sur le rôle de l'insubordination et de la désertion comme arme du pauvre. Il y a des formules très intéressantes où il explique qu'en fait, la désertion, le sabotage, la grève du zèle sont effectivement les armes qui sont au moyen du pauvre, et c'est les grands absents de tous les récits historiques traditionnels, tout simplement parce que ils sont choisis par les pauvres et par les dominés, parce que c'est des moyens de lutte anonymes. Et il y a des formules intéressantes où il explique finalement qu'on peut dire que si on fait une histoire des dominés, on pourrait essayer de dire que tous leurs efforts au cours de l'histoire, ça a été de ne pas apparaître dans les archives. C'est-à-dire effectivement de rester dans cet anonymat-là. Et il essaie de comprendre finalement l'anarchie comme une espèce d'expression de ce type de résistance diffuse, collective et auto-organisée.
Voilà, on va peut-être faire une pause musicale. Tout à l'heure, vous avez entendu le groupe Nas, que je connaissais pas du tout. Et puis, juste après, c'était les Beastie Boys, No Sleep in Brooklyn. Voilà, et là, je sais pas ce que Jean-Mathias a prévu. J'imagine que c'est encore du rap. Désolé, José, j'ai pas le contrôle de la platine sur ce coup-là. Donc, on va bien voir ce que ça donne.
Yeah, or Marsha Brady. Let me know, hun, the deed'll get done. Just us in the position. I'll take my rod and then I'll go fishing. I'll get your river flowing. I'm always in the knowing. It comes to giving pleasure. I'm every woman's treasure. I came to work your body, so let me do my job. I've never been laid off, but rhyming still paid off. 'Cause now I'm making records, and now I'm making tapes.
Now they bustin' suckers in bunches like grapes, making all the papers, scooping up the loot, putting suckers on the run. Pull my gun in and I shoot. I never been a front, I never been a fraud. I got a natural skill, for that I thank the Lord. Cause I feel blessed, I'm casually dressed. I always got my gun, but I never wear a vest. I'm quick on the draw, like the horse named McGraw from the cartoon. Boom, shalock, lock, boom.
Boom, shalock, lock, boom.
Alright now.
Boom, shalock, lock, boom.
The caper, straight with the taper, the lyric skyscraper, hit you like the lyrical murderer. I know you think I have, but yo, I never heard of ya. Just because you heard of me, kid, fuck around with you, you do the lifetime bid. I'll put you in the dirt and leave you ass for dead. When it comes to tools, these are sharpest in the shed. Cause I'm the 55 Cadillac King. It ain't no thing, my car don't ring. We'll bust you in the grill, I got the skill. You got to chill, cause I bring doom.
I got the boom, shalak, lock, boom.
You go front. Everlast, that's my name. My unique rhyme style's my claim to fame. The House of Pain's the name of my clip. You get me down, punk, get off my dick. You make me sick, like strawberry quick. Your style is whack, you ain't the Mac. So yo, step back, get off the crack, and sing a new tune like boom, shalak, lock, boom.
Boom, shalak, lock, boom.
Alright now.
Boom, shalak, lock, boom.
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste. Voilà, c'est Jeudi Noir qui se poursuit. Maudit soit José. Donc, non, plaisante, hein, on l'aime bien quand même. C'est la première fois en 2 ans qu'il n'est pas là, donc on va être gentil en fait. Mais bon, il faut bien que je me moque de lui parce que voilà, la perche est trop tendue. Donc, voilà, alors normalement c'était José qui devait faire une des parties de l'émission. Alors il aurait dû vous parler d'un livre qui s'intitule L'anarchisme expliqué à mon père, qui est aussi édité chez Lux, qui est une bonne petite maison d'édition québécoise, je crois, canadienne, qui publie des tas de choses vachement bien. J'y pensais quand tu présentais le bouquin L'éloge de l'anarchisme, chez Lux, où on trouve aussi un petit livre sur le Black Bloc, où ils expliquent un petit peu, pour sortir de la vision médiatique du Black Bloc, ce que veulent les gens du Black Bloc, comment ils espèrent l'atteindre, etc., etc. Et donc bon, ça fait partie des choses, ça fait partie des maisons d'édition. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir beaucoup de choses, vous pouvez aller voir leur catalogue, je pense, sur internet. C'est très très riche. Voilà. Et sinon, heureusement, j'avais prévu un peu trop de livres, histoire d'eux quand même. Et donc, vous avez, si vous voulez maintenant rentrer un peu plus dans le détail, et dans du un peu plus lourd, si vous avez le temps, l'envie. Alors, il y a un bouquin qui est un très classique, un peu ancien maintenant, mais qui reste, je pense, relativement incontournable si on veut rentrer là-dedans. C'est un livre de Jean Maitron. Genre Jean Maitron, je crois que c'est un historien
du mouvement ouvrier.
C'est un historien du mouvement ouvrier qui a édité un dictionnaire du mouvement ouvrier, où on trouve les notices biographiques de tous les leaders ouvriers.
Ou leaders ou militants.
Militants, voilà, c'est ça, voilà. Militants ouvriers. Ouais. De quoi, du XXe siècle,
hein. Ah, jusqu'à nos jours, hein, effectivement, oui. c'est réactualisé.
C'est réactualisé, oui. C'est appelé typiquement le Maitron, d'ailleurs. Voilà. Mais. Donc Jean Maitron a aussi écrit un livre très très détaillé qui s'intitule Le mouvement anarchiste en France. Alors c'est en 2 volumes là encore. Et c'est quelque chose qui est comment dire, ça date d'abord édité chez Maspero en 75, donc bon, c'est pas tout neuf. Ça a été réédité chez Tel, voilà, donc chez Tel Gallimard évidemment. Bon, on peut le savoir, hein, si vous pouvez trouver l'édition Maspero, vous ne gênez pas, ce sera toujours ça de prix. voilà, donc et c'est alors c'est une espèce de somme. Parce que il va retracer dans les détails tous les, alors c'est très historique, hein, bah justement, enfin tout le mouvement anarchiste, donc depuis Proudhon, mais même un peu avant, enfin ce qu'il appelle l'esprit libertaire, il passe, comment dire, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, donc il montre là comment on est passé du mutualisme chez Proudhon à un collectivisme anti-étatiste, parce que je suis pas sûr que chez Proudhon soit toujours super clair tout ça. Il montre aussi comment justement Bakounine et Marx ont fini par par rentrer en conflit de façon assez grave à travers la fédération jurassienne, le développement de l'international anti-autoritaire, puisque Bakounine était un militant extrêmement actif et avait développé à partir de la Suisse où il était réfugié. Après s'être échappé des prisons tsaristes, être passé par l'Angleterre, on avait vu Marx, être passé par la France, où il était toujours pourchassé, plus ou moins il s'était réfugié en Suisse. Et là il tombe sur un mouvement socialiste, libertaire, enfin bon, anti-autoritaire en tout cas, qui va beaucoup se développer dans le Jura. Et à partir de là, ça va essaimer en Italie, et beaucoup en Espagne et dans le sud de la France. Et c'est pour ça que justement il va y avoir cette rupture assez nette qui va aboutir entre les anarchistes, ceux qui à l'époque s'appelaient pas forcément anarchistes, qui étaient plutôt des fédéralistes ou des anti-autoritaires, etc., et les socialistes autoritaires, enfin qui étaient appelés comme ça par les premiers, réunis autour de Marx. Et donc ça va, voilà, donc vous avez là, il explique assez bien, je trouve, les motifs de la rupture de la Première Internationale, comment elle est sabordée complètement par Marx en fait, qui veut pas du tout que perdre le contrôle du mouvement, qui préfère tuer le mouvement plutôt que d'en perdre le contrôle.
Le point intéressant par rapport au texte dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'avec le Métron, on a un livre qui est un livre d'histoire.
C'est ça.
C'est-à-dire que là, les textes qu'on vous a présentés de tout à l'heure sont soit des versions un petit peu digest, si je puis dire, voilà, de la pensée théorique des grandes figures, soit avec l'anthologie de Guérin, là, Ni Dieu ni Maître, un recueil de textes, justement. Donc là, on a ce que les auteurs disent, affirment, écrivent dans leurs textes, donc c'est évidemment une entrée indispensable. Ce que fait Métron, c'est que lui, il fait les liens. C'est-à-dire qu'il donne le contexte, il explique qui, quand, pourquoi, comment, quels sont. Donc c'est un vrai travail d'historien. Donc là, on a effectivement les entrées qu'on a présentées tout à l'heure sont des entrées par les textes, des entrées par les arguments, par les positions théoriques, par les idées. Et le Métron, bah ça reste effectivement la référence sur la mise en perspective historique de la chose, avec effectivement une approche alors qui est parfois qui est universitaire. Hein, je veux dire, Métron, c'est un historien professionnel, mais évidemment c'est tout à fait passionnant quand on a la culture des textes qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement les positions explicites des uns et des autres, sachant qu'évidemment tel texte de Malatesta, si on le remet pas en perspective par rapport au débat qui l'oppose au moment où il l'écrit face aux partisans du syndicalisme révolutionnaire ou des socialistes autoritaires, on comprend pas forcément pourquoi il insiste sur tel ou tel point ou sur tel ou tel.
Oui, parce que la plupart des textes sont des textes qui ont quand même qui sont très très ancrés dans un contexte politique, et donc il y a beaucoup de débats.
Ce qui est le propre de la tradition anarchiste, c'est-à-dire que c'est une tradition qui est sans doute moins théoricienne, hein, que
beaucoup moins théoricienne que la tradition marxiste.
Elle est relativement peu impressionnée par toute la dimension de socialisme scientifique qui a été développée par Marx, mais aussi dans la social-démocratie.
Elle n'a même pas été du tout impressionnée. Bakounine en fait critique le soi-disant critique le scientisme marxiste dès le début. Il y voit justement quelque chose d'autoritaire.
Ce qui donne, en plus,
il n'est pas du tout contre la science ni contre la raison. Simplement, il est contre l'usage, un usage autoritaire
de la science en politique.
De la science en politique, parce que justement, il trouve que là, il y a un hiatus, il y a une séparation qui est quand même importante, et on ne peut pas franchir ce passage aussi facilement que Marc va nous faire croire.
Mmh. Et c'est vrai que le Métron, de ce point de vue-là, retrace effectivement l'histoire d'un mouvement politique, l'histoire d'une pratique politique, hein, parce que c'est une constante, et il y a des raisons profondes à cela, que l'anarchisme politique donc n'a pas de corpus théorique soigneusement constitué, discuté avec ses exégètes, etc., comme on peut le trouver dans le marxisme en général, et puis dans la pensée socialiste plus largement. Donc c'est plus effectivement des pratiques, des situations, des événements, des mouvements révolutionnaires, des explosions, qui vont donner lieu en quelque sorte. C'est comme ça qu'elle avance la tradition anarchiste, si on peut parler de tradition, sur effectivement la manière, les leçons à tirer d'eux. Hein. D'une certaine manière, il y a dans le texte de Guérin dont tu parlais, et c'est aussi au cœur d'une certaine manière du Métron, il y a la Commune de Paris, l'interprétation de la Commune de Paris comme événement historique qui d'une certaine manière va bouleverser tous les débats théoriques posés par le mouvement ouvrier, la Première Internationale. Et là on voit bien effectivement ce qui sépare ce qui va devenir le marxisme et le socialisme autoritaire de la tradition anarchiste, c'est-à-dire la manière dont un événement réagit sur les militants, les auteurs, les discours, les programmes, les analyses. Et là c'est un point qui est tout à fait crucial et qui est très commenté, très discuté par le Métron, qui s'arrête pas là, hein, évidemment, parce que après ça le bouquin va jusqu'à la guerre de 14, ouais. Hein, donc c'est toute la première période de constitution en quelque sorte de la pensée anarchiste dans le cadre du mouvement ouvrier révolutionnaire.
Ouais, donc dans un contexte historique. Bah voilà, on va s'arrêter là.
Ouais, tu veux ajouter quelque chose? Oui, juste très rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'autres livres là-dessus qui peuvent servir d'entrée assez pédagogique là-dessus. De Guérin toujours, alors il y a un classique qui s'appelle l'anarchisme, tout simplement, qui est une espèce d'histoire condensée, partisane, mais dans le bon sens du terme, puisqu'il s'agit d'avoir une présentation à destination des militants et de ceux qui souhaitent participer à cette tradition-là. Puis il y a un petit bouquin que tu n'as pas mentionné par modestie, mais qui est difficile à trouver, mais qui s'appelle La Bibliothèque anarchiste, auquel tu avais contribué. On avait parlé, on verra si c'est possible, il y a un CD qui existe.
Avec les émissions qu'on avait faites avec Philippe et Michael Parer.
Voilà. On étudie la possibilité éventuellement de mettre ça en ligne sur le site.
Il faudra que je demande à Michael et à Philippe s'ils sont d'accord.
Mais c'est
après les émissions sont, comment dire, je pense qu'elles sont propriété de Radio Libertaire, je sais pas trop, mais on va voir ça. Le livre est pas facile à trouver, donc je voulais pas en parler parce que je voulais aussi des livres qui soient accessibles pour nos éditeurs. Donc donc l'émission s'achève ici, malgré José. Vous pourrez trouver l'émission qu'on a sur le site de José, justement, Gurdulu. Vous tapez Gurdulu, Jeudi Noir, et vous trouvez l'émission. Voilà, donc avec toutes les références de tous les livres dont vous a parlé. Voilà, on les lui donnera. Donc, à dans 2 semaines, et puis, lisez bien d'ici là.
He's having a ball, and you know, they asked me to get on the mic, and they asked me, can I kick it? Word. Can I kick it?